With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 504 du podcast Touch en Actuel en Mathéi. Très heureux de vous accueillir pour votre débrief, alors j'allais dire votre débrief NFL de la semaine, mais non, je dis plus ça, la suite de votre débrief NFL de la semaine, puisqu'il a commencé lundi matin sur vos plateformes, ensuite mardi matin sur vos plateformes et désormais mercredi matin sur vos plateformes pour les 12 autres matchs de la semaine. À mes côtés, il était très chaud pendant le générique, il s'échauffe là, je vois, il fait des sortes de vocalises à blanc, c'est Grégory Richard. Bonjour Grégory.
Bonjour Alain, bonjour Raph et bonjour à tous.
Tu nous reviens bronzé, en forme et tout, il paraît. Hein.
Ouais, ça saute aux yeux, non, que je suis bronzé.
C'est vrai, ça, oui. Tu es un tout petit peu plus rosé que d'habitude, en effet.
Ah, c'est ça, rosé, c'est le bon terme. C'est...
Raphaël, bonjour, Raphaël Masmejean.
Eh bien, salut messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison.
Raphaël, petit aparté, cet après-midi, j'ai mis en ligne, j'ai préparé la mise en ligne de l'émission rétro de la semaine. C'est le tout premier podcast TDA. Si tu veux te réécouter samedi, je te spoil un peu, on a fait des progrès. Je dis bon, parce que c'est collectif.
Heureusement. Ouais. Heureusement, j'ai envie de dire.
Mais je donne un spoil pour les gens qui voudront écouter l'émission rétro samedi. Dis-toi qu'on avait fait les pronostics de la saison. C'était l'émission vraiment du début de saison où on avait fait les pronos de la saison et j'ai survolé l'émission. J'ai pas tout réécouté encore, mais je suis tombé sur le moment où on parle des rookies défensifs de l'année. Et ben on n'était pas trop mauvais parce que tu avais pronostiqué Von Miller et j'avais pronostiqué JJ Watt.
Ils ont une belle carrière.
Voilà, c'est deux mecs qui ont fait une petite carrière. Je crois que c'est Watt qui gagne du coup le titre de rookie de l'année cette année.
C'est fort possible.
Ouais.
C'est, bon, possible, en tout cas, oui, ça fait bizarre de réentendre de parler de ces deux-là, mais en mode rookie, tu vois. Je dis, ouais, il a fait une bonne pré-saison, il a l'air bon sur le pass rush, tu vois. Ouais, ça s'est plutôt confirmé. Le débrief, on revient en 2022. On va revenir donc sur les leçons des matchs de la semaine. Vous avez déjà entendu le débrief du Bills Rams avec Lucas Vola, il est déjà disponible. Les trois grandes affiches de la semaine, c'est couvert aussi. On a parlé de Bengals Steelers, de Buccaneers Cowboys et de Chargers Raiders. On va enchaîner évidemment avec tout ce qui reste et croyez-moi, il en reste beaucoup, ne vous inquiétez pas. On va parler de Patrick Mahomes, d'Aaron Rodgers, de plein de quarterbacks, de plein de jeunes quarterbacks. C'est parti messieurs, beaucoup de choses à dire.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Chiefs 44, Cardinals 21. C'était une des premières grosses affiches de la saison. Et surtout, parmi les grandes questions de l'intersaison, messieurs, il y avait est-ce que les Chiefs vont être aussi bons sans Tyreek Hill en attaque ? Je pense que ça fait partie des questions qui ont été vite répondues, comme dirait un de nos amis lettrés qui a fait le buzz sur le web. Bon, là, je pense qu'on a la réponse, Raphaël. Patrick Mahomes, Andy Reid, iront très bien sans Tyreek Hill.
A priori, oui, ils iront très bien. C'est vrai qu'il y avait des doutes là-dessus. De mémoire, dans les pastilles et dans le power ranking, on n'était pas non plus ceux parmi lesquels qui doutaient le plus, parce que
non.
Andy Reid a quand même un passif de jeu offensif dans ses équipes depuis pas mal d'années maintenant dans la Ligue, sans qu'on puisse penser que l'équipe devienne absolument mauvaise en attaque. Donc oui, ça nous a rassuré, disons. Si on doutait pas, on attendait peut-être d'être rassuré, de voir la confirmation. C'est une bonne nouvelle parce qu'on peut développer, mais je trouve qu'en plus le fait que Tyreek Hill ne soit plus là a peut-être obligé les Chiefs à pas changer complètement le jeu, mais à varier encore un peu plus peut-être. Peut-être tenter un peu moins de grosses passes en profondeur pour Tyreek Hill et jouer un peu plus sur les zones intermédiaires, milieu de terrain. Donc écoute, on va développer un peu plus, hein, mais en tout cas, belle première prestation clairement de Patrick Mahomes et d'Andy Reid au play calling.
Mahomes, c'est 30 sur 39, 360 yards, 5 touchdowns. Greg, on est sur une saison de prétendant au MVP qui démarre a priori, donc ça va.
Oui, a priori, la dernière fois qu'il a commencé sur des standards, je crois qu'il n'a pas trop mal fini la saison d'un point de vue récompense. Mais c'est vrai que pour rejoindre ce qui a été dit, alors Arizona, ce n'est pas l'équipe qui, à l'inverse, m'a rassuré le plus, par exemple, au niveau des DB à l'orée de cette saison. Mais c'est vrai que, par exemple, une des grosses interrogations, c'était leur escouade d'inside linebacker qui avait notamment la capacité de pouvoir couvrir. Et on a vu, en l'occurrence, que ça n'a pas empêché la connexion Mahomes-Kelsey de pouvoir sévir pendant tout le match. Kelsey, c'est 8 réceptions sur 9 ballons lancés dans sa direction. Enfin, de toute façon, il suffit de voir la fiche de Mahomes pour voir que, globalement, il y en a beaucoup qui ont complété globalement les passes qui étaient à destination. Et pour rejoindre un peu ce que disait Raph, c'est vrai qu'en effet, on a énormément misé, notamment sur un Clyde Edwards-Helaire, peut-être un peu plus dans ce côté électron libre au milieu du terrain, justement, en tout cas en sortie de backfield. Et on attend peut-être de développer un petit peu Sky Moore pour avoir ce profil qu'avait justement Tyreek Hill, ce profil peut-être hyper explosif, capable d'étendre un peu plus au niveau de la verticalité le jeu. Et en l'occurrence, voilà, là, ça a été méthodique. Et comme Arizona n'a jamais réussi à trouver les solutions défensives pour stopper Kansas City, il n'y avait pas de raison. Alors, on a vu qu'il y a eu beaucoup de choix un peu compliqués chez certaines équipes niveau play call offensif. Il n'y avait pas de raison que Andy Reid et Eric Bieniemy changent leur fusil d'épaule pour exploiter à 100% les failles adverses.
Je trouve que c'est le génie d'Andy Reid. C'est une attaque où Clyde Edwards-Helaire revit, Juju Smith-Schuster cap 6 passes, 9 joueurs au total qui ont des réceptions. C'est ça, et c'est un peu la patte Andy Reid, et c'est ça qui marche le mieux. Juste petit calcul maison, hein, à 5 touchdowns donc sur ce match. On parlait du gros début de Patrick Mahomes, il est donc sur un rythme de 85 touchdowns sur la saison, hein, s'il continue à ce rythme-là, ce qui serait un record. Alors, le record est
avec un match de plus, de toute façon, maintenant, les records vont être amenés à tomber. Ouais.
Les records vont tomber. Un mot sur cette défense, il limite les Cardinals à 21 points. Alors, les Cardinals, évidemment, ont leurs torts et leurs problèmes, hein, on va y revenir aussi, mais c'est pas mal en défense Kansas City. George Karlaftis, pardon, le rookie, a 4 pressions et 2 quarterback hits. Ils ont 2 sacs au total. Il est pour Lajarius Sneed et Wharton au niveau des sacs. Il y a des petits motifs d'espoir, Raphaël, pour cette défense aussi.
Ouais, je trouve que peut-être l'autre deuxième leçon, on va dire ça comme ça, de la semaine côté Kansas City, c'est le 109 en fait injecté dans l'effectif et notamment en défense qui donne le sentiment de déjà porter ses fruits. Tu l'as dit, il y a Karlaftis, il y a le rookie McDuffie cornerback qui a été limité en snap parce qu'il s'est rapidement blessé, mais tous les snaps qu'il a fait, il avait un niveau plus que correct. Mine de rien, le vétéran Carlos Dunlap a aussi apporté. Je ne sais pas si le fait qu'il y ait Karlaftis et Dunlap, ça a remis un petit coup de boost à Frank Clark, mais Frank Clark, je l'ai trouvé aussi assez concentré et assez présent sur ce match. Pas mal de pression, ça ne s'est pas transformé ça s'est pas transformé en sac, etc. Mais il m'a semblé plutôt impliqué. Et comme tu vois, après, Sneed, etc. Donc, un Chris Jones assez bon aussi également. Ouais, j'ai l'impression que ce soit en défense, et on pourrait presque même dire en attaque, parce qu'avec le coureur rookie Pacheco qui a semblé peut-être mettre un peu piqué au vif Clyde Zeller aussi. Bref, tout ce 109 apporte quelque chose, apporte plus de rotation, apporte de la jeunesse, de la rapidité, tout ça. Je trouve que c'est un bon signe pour l'avenir. Ouais.
Greg, en un mot sur la défense des Chiefs, est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Non, pas grand-chose. On voit globalement quand même quand Kansas City arrive bien à renouveler son groupe. En effet, l'année dernière, il y a eu des belles petites trouvailles, notamment en attaque. On pense au Trey Smith ou Creed Humphrey, par exemple, sur la O-line. C'est pas une mauvaise chose, en effet, d'avoir ce 109 défensif qui peut permettre à Kansas City d'avoir d'autres joueurs, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms qui ont déjà été cités. Mais un Nick Bolton, par exemple, sur le deuxième rideau, fait beaucoup, beaucoup de bien. Par exemple, un run stop qui a souvent été un point faible des Chiefs. Donc, en effet, c'est de bon augure pour la suite.
Hier, on disait que Lucas avait annoncé les Bengals comme flop dans le fauteuil et que immédiatement Joe Burrow avait été intercepté. Je suis assez content de moi. J'ai annoncé les Cardinals comme flop. Honnêtement, j'ai pas été déçu. Kyler Murray a pris 230 millions de dollars. Ses dirigeants le détestent, hein, il faut le rappeler. Il a lancé 193 yards sur 34 passes. Alors oui, il y a plein d'absents, mais quand tu es un des quarterbacks les mieux payés de la ligue, on attend peut-être un peu plus. Où est le problème sur ce match en attaque pour les Cardinals? On va commencer par l'attaque. Ça va être un de mes thèmes récurrents, mais je voudrais pas dire qu'il manque de receveurs. J'ai rien contre Greg Dortch, mais le fait que ce soit ton joueur qui capte le plus de ballons me semble un peu problématique.
Ouais, après, il me semble qu'il perd Rondale Moore très rapidement dans ce match-là. On va pas rappeler que DeAndre Hopkins va rater pas mal de rencontres au cours de cette saison.
6 en l'occurrence.
Mais ouais. Et puis là, pour le coup, on atteint aussi les limites un peu d'un jeu au sol très limité par les aptitudes, peut-être par les fulgurances de James Conner. Et en effet, quand c'est Kyler Murray qui doit prendre vraiment le jeu à son compte, merci. Ça peut rapidement devenir un petit peu rédhibitoire, surtout qu'encore une fois on l'a dit, la défense des Chiefs a été extrêmement appliquée, a mis beaucoup de pression, a été assez dans l'observation, on va dire, sur le run stop. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi pour Murray de trouver une sortie là. Pour moi, il n'y a rien de déshonorant parce que ça tombe face aux Chiefs, mais c'est vrai que c'est pas très rassurant en effet quand tu as un quarterback qui prétend à franchir un palier cette saison.
J'allais me permettre de compléter. En effet, j'ai été mauvaise langue sur les receveurs pour le sport, mais en vrai, il est sous pression sur 43,8% des snaps à la passe, Murray. Donc, c'est ça le vrai problème, en fait. Et que leur jeu au sol est sabré en plus par le fait qu'ils sont vite derrière. Donc, à partir de là, ils avaient très peu de chance, Raphaël.
Oui, je pense que sur ce match-là, en tout cas, sans préjuger le reste de la saison, mais sur ce match-là, à mon sens, c'est quand même avant tout la ligne offensive qui craque complètement. T'as donné la stat, on a redonné Houston au centre de la ligne qui a jamais paru aussi vieux que hier, enfin que avant-hier maintenant. Donc ouais, moi j'aurais plutôt tendance sur le coup à incriminer la ligne offensive qui a vraiment empêché le jeu de se développer un minimum. Oui, il y a eu un manque de connexion, hein, Kyler Murray un peu rouillé clairement pour commencer la partie. Maintenant, j'aurais plus tapé d'abord sur la ligne offensive. Le problème, c'est que je ne sais pas s'ils vont réussir à trouver des solutions d'ici la fin de saison. Alors, si on est un peu sarcastique, ouais, je ne suis même pas sûr que ce soit le bon terme, on pourrait dire que pour une fois, il commence mal et c'est peut-être mieux. Ouais. Mais bon.
Ce qui est assez paradoxal dans ce match-là, c'est de se dire qu'ils sont à 3 sur 12 sur 3e tentative, mais à 3 sur 4 sur 4e. Donc ça veut dire que mine de rien, il y a quand même une capacité malgré tout à pouvoir prolonger les actions, mais voilà, c'est sûr qu'avec avec un manque de protection sur certaines séquences face à des équipes où le niveau sera un peu plus relevé, ça peut limiter les chances. Ouais.
En un mot, et on avance sur notre prochain gros dossier, c'est prématuré de dire que Cliff Kingsbury va être en danger cette année?
Il a annoncé en premier coach viré. Après, je présage pas sur ce match-là, mais oui, ça augure pas des bonnes choses.
Raphaël.
Possible, surtout si la défense reste aussi catastrophique, ça va pas les aider toute la saison, donc probable.
Deuxième gros dossier, Packers 7, Vikings 23. Aaron Rodgers avait l'air un tout petit peu agacé sur le banc de touche. 0 point en première mi-temps, des receveurs qui laissent échapper des ballons. Il s'est même fait saquer par son ancien coéquipier Zadarius Smith, qui l'a un peu poussé au passage. Ça n'a pas dû l'aider de voir ce qu'il y avait en face avec Justin Jefferson à 9 réceptions, 184 yards, 2 touchdowns. Ça a de quoi le rendre jaloux, un receveur comme ça, quand même, sur une soirée pareille. Est-ce qu'on est inquiet pour l'attaque des Packers ou pas? Je rappelle, pas d'Alain Lazard, pas de David Bakhtiari. Il manque un autre lineman dont le nom m'échappe. C'était une soirée un peu chaotique et terrible pour les Packers, qui déjà avaient pris un 38-3 en ouverture l'an dernier. Donc là, ils ont marqué plus de points, il y a moins d'écart, c'est presque un meilleur début de saison. Est-ce qu'on est inquiet ou pas, Grégory?
Bah, inquiétant, tu l'as dit, encore une fois, il y avait une déroute beaucoup plus significative et c'est vrai que cette équipe des Vikings, globalement, alors l'effectif n'a pas été bouleversé en tant que tel et on voit quand même que offensivement et défensivement, ça a été extrêmement cohérent de bout en bout. C'est une équipe qui était assez bien préparée en face, je ne vais pas trop anticiper parce qu'on reparlera sûrement des Vikings dans quelques secondes, mais ça ne m'alarme pas totalement sur ce qui va se passer pour la suite des événements du côté des Packers. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces rencontres, en effet, en début de saison, où déjà on peut s'interroger sur les potentielles failles et sur la capacité, enfin, ça va devenir assez récurrent, sur l'aptitude offensive, par exemple, de Green Bay au mois de janvier. Là, c'est sûr que si tu te retrouves dans ce genre de scénario, sur ce genre de rencontre-là, face à un adversaire potentiellement en concurrence pour les playoffs, ça ne te rassure pas d'emblée. Après, c'est vrai que tu l'as dit, il manquait quand même un peu de monde. Le jeu au sol n'a pas été fabuleux non plus, donc je pense que c'est l'attaque globalement qui n'était pas bonne, même si forcément on retient une prestation en demi-teinte des receveurs, notamment ce drop un peu grossier de Christian Watson pour sa première.
Est-ce que je peux réussir à te faire dire qu'il n'a pas des bons receveurs aujourd'hui?
C'est un premier match NFL. Donc après, moi, je peux te dire, si tu as envie de l'entendre, moi, je peux te le dire. Mais après,
je te dis juste que le mec qui l'a le plus ciblé, c'est AJ Dillon avec 5 réceptions. Ce qui est symptomatique,
oui, bah,
du coup,
après,
qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, quoi.
Oui, enfin, après, de mémoire, hormis Davante Adams, on joue beaucoup sur les running backs aussi. Là, c'est sûr que, encore une fois, on devinait les problématiques que ça allait poser, le départ de Davante Adams et le fait qu'il n'y ait pas de receveur numéro 1 dans cet effectif. Peut-être que Green Bay va le retrouver au fur et à mesure. On va laisser le temps quand même malgré tout. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de rookies qui arrivent dans cette escouade-là. Mais en l'occurrence, voilà, c'est l'attaque globalement qui a pas forcément performé comme il le fallait. Et il va falloir se poser des bonnes questions du côté des Packers.
Raphaël, panneau démarrage et on s'inquiète pas ou vraie inquiétude? Parce que la différence quand même avec l'an dernier, c'est ce qu'on a dit, il n'y a pas Davante Adams pour rattraper l'attaque.
Ouais, forcément, j'aime pas forcément l'entre-deux, mais un peu des deux malgré tout. Pas d'inquiétude si tu te bases sur l'an dernier, effectivement, et sur le fait qu'il y a quand même suffisamment a priori de talent en défense, en attaque pour relever le cap, on va dire, et pas être aussi mauvais, oui. Maintenant, quand même, des petits motifs d'inquiétude malgré tout, parce que je trouve qu'on a des confirmations sur les maux de cette équipe et qu'ils ne changent pas beaucoup. L'an dernier, déjà, on trouvait que Davante Adams était trop seul. Bah, c'est encore le cas. Enfin, là, il n'est plus là et du coup, on a l'impression qu'il n'y a plus personne en receveur. La ligne offensive, on avait des craintes sur le fait qu'elle se soit assez affaiblie. Ça a quand même l'air d'être bien le cas avec à l'image un peu du rookie. Alors, c'est un rookie, peut-être qu'il va progresser au cours de la saison, mais Ed Ingram, là, le garde, a quand même passé sa soirée à se faire humilier. Et puis, il y a toujours ce sentiment que quand Matt LaFleur est dépassé dans le coaching, il n'arrive pas à renverser la table en cours de match, qu'il est toujours, voilà, l'équipe est dominée, elle est dominée, et il va perdre ce match. On n'a toujours pas ce sentiment qu'il est capable par son coaching de changer un peu le cours du match. Donc, il y a ces petits trucs-là. Et comme en plus, la défense qu'on attendait clairement meilleure a déçu également. Enfin, je sais pas, mais personnellement, j'attendais un peu plus, notamment du backfield défensif de Green Bay. Là, sur leur couverture de zone, ils se sont fait humilier toute la soirée par Justin Jefferson. Bon, voilà, je suis un peu dubitatif sur cette équipe. J'ai l'impression qu'elle sera suffisamment forte pour aller gagner un certain nombre de matchs, mais encore une fois, ce plafond.
Moi, je suis sur le même entre-deux, au sens où je suis pas inquiet parce que je pensais qu'ils vont se vautrer, mais je pense clairement pas qu'ils gagneront 13 matchs comme l'an dernier et que 10, ce serait déjà bien.
Mm-hmm. On est voilà. D'accord.
Bon, on est d'accord. Est-ce que les Vikings, eux, sont pour de vrai, comme on dit en américain, ils sont for real? Parce que Kevin O'Connell, c'est un coach offensif et son attaque, elle a plutôt tourné. On peut pas lui reprocher ça. Tu le disais, Raphaël, ils ont bien mis en difficulté une défense de Green Bay qui est censée être solide. Ils sont à 277 yards pour Kirk Cousins, pardon, 2 touchdowns, il prend qu'un seul sac, 126 yards au sol à 4,5 yards par course, Jefferson qui s'amuse. Le contrat est rempli pour Kevin O'Connell et j'ajoute même, il est rempli en défense aussi parce qu'au final, il limite les Packers à 227 yards, ce qui n'est pas anodin en NFL, même s'il y a des blessés, même s'il y a ce que vous voulez. Donc le contrat, il est rempli sur tous les plans pour Kevin O'Connell pour sa première en l'occurrence, Raphaël.
Ouais, pour une première, c'est une très belle soirée avec beaucoup de bonnes choses. Hein. Moi, offensivement, encore une fois, tu l'as dit, mais Justin Jefferson a, au-delà des résultats, je trouve que ça a été joué et coaché intelligemment parce qu'ils l'ont fait un peu plus jouer dans le slot. Ils ont profité vraiment de la couverture en zone de Green Bay avec beaucoup de routes croisées avec Thielen qui perdait vraiment la défense adverse. Donc, je trouve qu'ils ont tout fait pour que les qualités de Justin Jefferson explosent peut-être encore plus que juste en lui faisant courir des tracés dans la verticalité côté gauche, côté droit. Voilà, on l'a un peu plus déplacé sur tout le terrain et ça a eu l'air de plutôt bien marcher. Donc ça, c'est un super point. Et cette défense, on l'avait dit hein, dans le power ranking et la plastique, qui est composée de beaucoup de vétérans, beaucoup de joueurs d'expérience. L'âge, pour certains, peut faire un peu peur, mais s'ils arrivent tous à atteindre un peu hein, une sorte de pic, c'est des joueurs intelligents. Enfin, Harrison Smith, X au poste de linebacker, Kendricks. Voilà, on a des joueurs de qualité, des vétérans. Je ne sais pas s'ils vont tenir toute la saison à ce rythme-là, mais en tout cas, pour une première, c'était vraiment réussi, clairement.
X, il n'a pas rigolé, hein, avec 14 plaquages et un sac, c'était du très très lourd. Greg, plutôt satisfait, si tu veux en choisir un, par l'attaque ou la défense de Minnesota ?
En l'occurrence, l'attaque, forcément, parce que tu le disais, c'est là où on attendait principalement Kevin O'Connell. Maintenant, voilà, juste pour la précision, Minnesota, ça restait une équipe qui était en course pour les playoffs la saison dernière, malgré l'imbroglio annuel autour de la gestion de Mike Zimmer. Donc, on sait en effet qu'il y a du talent. Leur problème ces derniers mois, c'était surtout la constance. Donc, c'est là où il va falloir, si sur la durée, ils vont réussir à confirmer. C'est vraiment ce qui me faisait peur en amont de cette saison. Mais là, en l'occurrence, sur cette prestation-là, l'année dernière, il me semble qu'ils avaient perdu assez rapidement face à Green Bay à la maison. Là, en l'occurrence, ils se reprennent assez… Enfin, ils marquent le coup d'entrée avec un nouveau système défensif, etc., etc. Donc voilà, donc c'est une très bonne chose. Ça peut confirmer en effet qu'ils seront à considérer. Mais en effet, l'attaque en tout cas est intéressante, même si Raph l'a très bien dit, défensivement, il y avait des bonnes choses aussi à mettre à leur crédit.
49ers 10, Bears 19, sous une pluie battante, pelouse trempée, les 49ers qui trébuchent d'entrée pour le début de l'ère Trey Lance. Est-ce qu'on sonne déjà l'alarme, messieurs, ou alors est-ce qu'on dit qu'il faisait un temps affreux, les conditions étaient trop exceptionnelles et… On ne peut pas tirer grand-chose de ce match. C'est ce que nous disait Marco, notre rédacteur, qui a fait le résumé. C'est pour ça que je vous soumets ça. Est-ce qu'on en tire quelque chose de ce match, Raphaël, pour Trey Lance ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Effectivement, les conditions étaient un peu compliquées. Ça s'est quand même vu pour les deux quarterbacks, hein, globalement, qui n'ont pas pu faire grand-chose non plus. Bon, il a raté des lancers faciles, sans aucun doute, ce qui n'est jamais bon signe. Maintenant, je l'ai aussi vu réussir quelques passes et quelques jeux explosifs. Donc, une équipe beaucoup pénalisée hein, de San Francisco qui avait l'air pas très prête, 13 pénalités de mémoire. Bon, c'était... On sait aussi que ça existe les jours sans. Au final, l'échantillon sur Trey Lance, c'est tellement faible que c'est quoi, son troisième vrai match peut-être ? Quatrième ?
Oui. Troisième, ouais, je crois.
Bon, troisième, je vais encore lui laisser un peu de bénéfice pour le coup, trois matchs, quoi.
Greg, est-ce que la différence ne s'est pas faite sur le fait que Lance ne saisit pas les occasions, il lance une interception qui fait très très mal quand il mène 17 et derrière ils prennent le touchdown qui fait passer Chicago devant, alors que Fields, lui, à l'inverse, puisqu'on a quand même deux jeunes quarterbacks, Fields, à l'inverse, lui, a 2,8 déval en première mi-temps où il ne fait rien, mais il lance deux touchdowns pour aller chercher la victoire.
C'est vrai. D'ailleurs, il me semble que c'était ils sortent dans la même draft. Hein, si je ne
oui, me trompe pas, je perds bêtise. J'ai hésité à le dire, j'avais peur qu'il y ait un an près.
Moi, en fait, plus globalement, alors on pourrait isoler sur les prestations des deux quarterbacks. Globalement, les prestations des deux QB, pour moi, sont pas bonnes.
Non.
Je pense que je vais rien apprendre. Alors, c'est sûr que les conditions météo peuvent ne pas aider. C'est plus d'un point de vue global, moi, que je jugerais ça, dans le sens où j'ai du mal à savoir si c'est vraiment Chicago qui a fait de très bons ajustements entre la première et la deuxième mi-temps, ou si c'est San Francisco, et du coup, par l'intermédiaire de leur quarterback, puisque du coup, il avait quand même, il court quand même beaucoup sur ce match-là. C'est celui qui court le plus. En l'occurrence, au niveau du jeu au sol de San Francisco, et pourtant, on sait qu'a priori, il y a des options hein, dans le système offensif de Shanahan. Est-ce qu'il n'est pas rentré également en plein doute, justement, quand Chicago a commencé à choper le momentum après le touchdown de Dante Pettis? Mais c'est vrai que c'est plus ça qui est assez intriguant, au-delà, comme disait Raphaël, des nombreuses pénalités de San Francisco. Je ne vais pas sortir le fameux cliché, c'est San Francisco qui a perdu plutôt que Chicago qui a gagné, parce qu'encore une fois, il y a eu des bons ajustements de la part des Bears. Mais c'est vrai que, à l'instar de leur quarterback, j'ai senti des Niners qui se sont vraiment endormis peu à peu, qui avaient largement l'occasion de tuer le match et qui l'ont pas fait, notamment offensivement. Il y a le fumble de Deebo Samuel, il y a plein de paramètres éventuellement, même si ça intervient assez rapidement le fumble de Samuel. Mais il y a plein d'éléments qui auraient pu faire que le match aurait pu être beaucoup plus simple, plutôt pour San Francisco.
En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les Niners ne courent pas plus. Et pourquoi Trey Lance doit lancer 28 ballons sous la flotte?
Bah, il me semble qu'il... Alors, c'est ça. Alors, peut-être
qu'il perd Elijah Mitchell, non?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il perd Elijah Mitchell. Peut-être que la pluie fait que... Et encore une fois, je parlais du fumble de Samuel. Alors, je sais pas si c'est vraiment... On peut vraiment incomber ça à la météo, mais peut-être qu'il y avait cette peur, en effet, de ne pas avoir une qualité une protection du ballon optimale. Après, de toute façon, si tu lances le ballon, tu peux avoir très bien avoir les mains qui glissent aussi.
Je dis ça parce que les deux équipes ont 37 courses, mais les Bears, eux, n'ont que 17 passes contre 28 pour les 49ers. Donc, il y avait un plan de jeu. Pour le coup, les Bears, eux, ont dit ils flottent, on va au sol et on voit que notre quarterback est en galère. Donc, on va au sol.
Après, il y a peut-être juste aussi la volonté pour Kyle Shanahan de dire on sait pourquoi on a choisi ce mec-là. C'est pas uniquement un joueur qui sait courir, c'est un joueur qui est capable de jouer également éventuellement profond. Enfin, il l'a montré notamment avec une passe longue distance, je crois, à destination de Jawan Jennings, par exemple. Mais c'est vrai que c'était une des rares fulgurances qu'on a vues. Et plus globalement, il a un petit peu sombré à l'image de son équipe. Donc voilà, comme le disait Raph, c'est vrai que c'est un petit peu, entre guillemets, un galop d'essai. On attend de voir un petit peu plus dans d'autres circonstances, peut-être déjà dans un environnement un peu plus favorable que ce qu'il pouvait y avoir ce week-end. Mais voilà, tout n'est pas totalement rassurant. S'en douter un petit peu, on en a eu confirmation.
Il n'avait pas George Kittle, au fait. Hein. On n'a pas précisé ce qui peut être confortable pour un jeune quarterback. Raphaël, tu voulais ajouter quelque chose ou on passe quand même juste un mot sur les Bears?
Est-ce qu'on non, mais j'allais parler des Bears, effectivement. Voilà. Je trouve qu'ils ont une capacité souvent, historiquement, un peu à gagner ce genre de match. Chicago, où ça défend dur et est capable beaucoup offensivement. J'ai quand même trouvé qu'il y avait en défense la patte un peu Matt Eberflus déjà, à tirer pas mal d'un groupe pas forcément le plus talentueux, comme je trouvais ce qu'il faisait personnellement Indianapolis. Ils vont être embêtants à jouer maintenant, offensivement. On sent que ça reste encore poussif et que le travail est là, surtout, quoi.
On enchaîne avec les Patriots 7, Dolphins 20. On avait peur pour l'attaque des Patriots avant le début de la saison. Bah là aussi, on avait raison. C'est un peu comme les Chiefs, mais à l'envers. 271 yards au total et surtout une impression de fébrilité très inquiétante. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier de cette attaque qui vous inquiète ou c'est quelque chose de plus global? On a un Mac Jones, qui était apparemment touché au dos, mais les examens sont plutôt rassurants. Miami a été bon en défense, mais voilà, il y a 3 ballons perdus, il y a de l'inefficacité, 5 incursions en terrain adverse pour 7 points. C'est très très poussif du côté de New England, Greg.
Oui, alors après, c'est sûr qu'on ne se remet peut-être pas du départ de Josh McDaniels aussi facilement, surtout quand on n'a pas vraiment de coordinateur offensif attitré. Pour moi, ce qui saute un petit peu aux yeux globalement sur ce match-là, c'est qu'on sait que globalement l'ADN des Pats, et ça l'était déjà malgré tout un petit peu quand Brady était là, à part l'exception notamment de la saison 2007, c'est le jeu au sol. Et globalement, il y a très très peu de jeu au sol. En tout cas, il a été assez bien contenu. Et on s'est. Alors, c'est vrai que les Pats se sont retrouvés très rapidement derrière aussi. Ça a pu jouer également dans l'équation de vouloir faire lancer un petit peu plus Mac Jones, d'avoir une prise de risque un peu plus conséquente. Mais voilà, si tu rajoutes en plus à ça le fait qu'il n'y a jamais vraiment eu la capacité pour Mac Jones de trouver ses cibles efficacement. Si tu perds ton aptitude à être vraiment dangereux, ou en tout cas à être capable d'installer et d'instaurer ton jeu au sol efficacement face à une défense de la qualité de Miami, parce que même s'il y a eu un changement de coaching staff et des remous pendant l'intersaison, ça reste une défense de qualité. Ça a fini par tourner un petit peu court.
Raphaël, ça se résume à ça, attaque moyenne, rencontre, défense de qualité?
Ouais, moi j'aurais aussi un peu tapé sur le coaching quand même du côté de New England. Je les ai trouvés particulièrement pas inspirés, que ce soit dans le play call ou dans les choix de joueurs. J'ai trouvé des trucs un peu douteux. Je pense notamment à ce touchdown de Jalen Waddle sur une 4e et 7, juste après un temps mort où ils mettent Bentley en couverture sur Jalen Waddle. Voilà, je sais pas, des trucs un peu étranges, un peu pas très inspirés, qui à mon sens confirment un peu toutes ces interrogations qu'on a autour du coaching, que ce soit offensif, défensif, un peu tout, cette intersaison bizarre à New England, alors que ça semblait prendre le bon rail l'an dernier.
Je vais nous jinxer, mais est-ce que à retardement, en fait, ça va pas enfin être l'année où les Patriots souffrent un peu? Tu vois, est-ce qu'ils reviennent dans le commun des mortels? Ils connaissent une saison à 5 victoires, tu vois, un truc comme ça. Ils expérimentent un peu la souffrance que peuvent vivre les fans de n'importe quelle autre équipe, peut-être. C'est peut-être l'année, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Bon, après, je sais pas, ils étaient. Enfin, sur ce match-là, c'est un match sans, mais.
Je sais bien. Ils vont en gagner 7 ou 8 ou 9, et puis ce sera les Patriots. On avait Tua Tagovailoa et Tyreek Hill pour leur première ensemble. On va pas dire que c'était un duel de gros bras. Hein. On a parlé de Mac Jones, là on parle de Tagovailoa. Il n'y avait pas des canons sur le terrain, parce que Tyreek Hill, en gros, on lui a filé des ballons dans les mains. Après, il en a fait des yards. Ça a fait 8 réceptions, 94 yards. Mais il n'y a quand même pas une impression d'explosivité extrême qui se dégage de cette attaque de Miami, si je peux me permettre, Raphaël.
Oui, c'était pas exactement ce qu'on attendait avec les arrivées du nouveau coach et de Tyreek Hill normalement, et même des joueurs choisis à d'autres positions un peu rapides, très dans le voilà dans cette explosivité. Là, on l'a pas eu, on l'a clairement pas eu. Mais le problème, ouais, comme toi, effectivement, il y a le bras de Tagovailoa, mais il y a même pas que ça. Moi, je le trouve lent dans ses lectures, dans ses choix. Mais ça va être un vrai souci pour passer un palier, quoi.
Moi, j'avais un peu l'impression que tout ce match était au ralenti, hein, pour être honnête, quand je l'ai regardé des deux côtés. Greg, je suis mauvaise langue sur Tagovailoa au sens où il fait quand même ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il gagne des yards, il perd pas de ballon. Bon, voilà, c'est déjà pas mal.
Oui, mais c'est vrai qu'après, en termes d'exécution, oui, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en effet, c'est pas totalement rassurant. Enfin, on pourrait être plus rassuré en sortant d'un match où on se dit que Miami a quand même été peu inquiété par New England sur l'ensemble de la rencontre. Il y avait déjà 17-0 à la pause. Mmh. C'est un match normalement où, voilà, justement, t'es pas censé te dire, tiens, c'est vrai que les passes du quarterback, bon, sont parfois un petit peu limites. Alors, il y a toujours ce côté, peut-être cette vision un petit peu d'optique de se dire c'est un quarterback gaucher, etc. Mais j'ai pas toujours eu cette sensation-là avec des quarterbacks gauchers en l'occurrence.
Je pense qu'avec Michael Vick, ça marchait hein, quand tu regardais, il avait pas l'air de.
Il jouait sur d'autres armes que ne peut peut-être plus exploiter aujourd'hui Tagovailoa, mais oui, déjà son bras est peut-être pas canon. Et puis même, ouais, j'ai l'impression que sa gestion de la poche est un peu compliquée et ça biaise beaucoup d'autres choses. Ça l'amène à peut-être précipiter un peu ses ballons, à tendre peut-être un peu ses passes. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. On a cette impression, en effet, que, on va beaucoup jouer sur de l'intermédiaire à Miami parce qu'on a la capacité de le faire avec les deux receveurs principaux. D'ailleurs, Mike Gesicki a quasiment pas été visé sur ce match, ce qui est quand même un petit peu curieux quand on sait sa situation actuelle du côté de la Floride. Mais c'est vrai que, voilà, sur du jeu longue distance, par exemple, Miami, ça va être un peu compliqué cette année, je pense.
Après, quand tu t'es déjà fait éclater la hanche par un type de 120 kilos, on te pardonnera d'être un peu méfiant quand il y a des types de 120 kilos qui sont proches de toi.
Je le conçois.
Eagles 38, Lions 35, 10 réceptions, 155 yards pour AJ Brown, record pour un receveur des Eagles dans son premier match. Troisième meilleure performance pour un receveur transféré. Je vous donne ce genre de stats, évidemment. J'aime bien ces stats de la NFL. Troisième, quatrième receveur, machin. Anquan Boldin avait fait 208 yards pour son premier match avec les 49ers. Randy Moss, 183 pour son premier match avec les Patriots. Je crois qu'on peut dire que c'est un bon recrutement pour Philadelphie. C'est pas trop se mouiller.
Pas mal, en tout cas. Écoute, surtout que pour le coup, il y avait ce besoin... malgré tout, d'apporter un peu de complémentarité, c'est pas dire qu'il l'était pas l'année dernière, mais en tout cas de sortir de ce côté un peu principalement jeu au sol. Là, s'ils ont vraiment une menace principale sur le poste de receveur, ils ont Devonta Smith qui là en l'occurrence sur ce match-là est un non-facteur, bon pour prendre une expression un peu anglophone mais complet. Mais en l'occurrence, oui, là on voit clairement pourquoi AJ Brown a été récupéré et sa capacité à pouvoir vraiment être dangereux et redoutable quand il faut l'être. 10 réceptions sur 13. Il n'y a pas encore le touchdown, mais franchement, on ne va pas pinailler quand on voit qu'il y a 4 marqueurs de touchdown différents au sol. Donc très franchement, oui, c'est une bonne acquisition pour Philadelphie. Ça nous promet des rencontres assez fun pour les matchs des Eagles.
Ils sont passés par toutes les phases. Hein. Début de match compliqué, grosse accélération, petite frayeur en fin de match. Ils ont une très belle attaque. Ils ont gagné 455 yards, les Eagles. Mais la défense s'est fait pas mal malmener par les Lions. Raphaël, est-ce que c'est inquiétant? Parce qu'on peut dire, c'est un premier match de saison, des fois, tu as un peu des hauts et des bas. Dans l'ensemble, ils sont là? Ou est-ce que tu es un peu inquiet pour ces petites montagnes russes dans le même match?
Écoute, moi, je ne suis pas particulièrement inquiet. J'ai vu que beaucoup de fans des Eagles étaient très inquiets, notamment par la prestation défensive.
Ah bah, on a eu Victor sur le Slack toute la soirée.
Victor, c'est au bout de 30 secondes. Ça y est, oui. La saison, c'était déjà vers le premier pic.
Le run stop s'est fait un peu secouer quand même.
Oui, bien sûr, le run stop s'est fait secouer. Après, bon, il y a un match qu'ils avaient largement en main. À un moment, bon, ça cale un peu. Je sais pas, je trouve que malgré tout, dans cette prestation défensive, tu ressors avec pas mal de certitudes sur ton trio de cornerback, Bradbury, Maddox et notre ami Darius Slay. Ça faisait quand même pas mal de temps que Philadelphie avait pas un tel trio dans le backfield. Je sais même pas d'ailleurs à quand on remonte la dernière fois.
Oui.
Non, je sais pas. J'ai trouvé que moi il y avait du bon un peu partout. Alors oui, c'était pas aussi bon qu'espéré peut-être, mais pour un premier match, moi je trouve que la prestation est globalement suffisante. Et puis si l'attaque roule comme ça face à beaucoup d'adversaires, bon, a priori, la NFC Est, ça va être dans la poche assez rapidement. Hein.
Ah bah, et puis Victor, donc on le disait, est passé par tous les états sur Jalen Hurts, qui lance pas de touchdown dans ce match, mais leur identité, ça reste le sol. Ils gagnent 216 yards au sol, ils marquent 4 touchdowns au sol. Bon, là-dessus, moi, je m'en fais pas non plus. Et après, la défense a des coups de mou, mais en face, bah, il y a quand même des clients. Tu disais, le run stop s'est fait bousculer Greg, mais il y a des clients en face. DeAndre Swift et la ligne, c'est du costaud. Moi, je suis fan de DeAndre Swift. Et donc, bon, voilà, ils se font bouger. Après, les Lions, eux, ils ont vécu justement avec les hauts et les bas de Jared Goff. Et je pense que malheureusement, ça va être un peu leur, ça va être un peu leur baromètre, quoi. C'est-à-dire que Goff, il a tout ce qu'il faut autour de lui. C'est fou. Ils auraient un mec comme Matthew Stafford, par exemple.
Je sais pas si j'aurais dit tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que malheureusement, c'est un match qui est à l'image de la saison dernière.
Faut un peu.
Non, mais il a des bonnes choses, je veux dire.
Oui,
au niveau des players et de la ligne, ça fait longtemps que Détroit a pas eu tout ça.
Il a des meilleurs instruments que la saison dernière, par exemple. C'est ça. Ça c'est indéniable. Après, oui, c'est une rencontre un peu à l'image de la saison dernière, c'est-à-dire qu'on a un Jared Goff qui commence très doucement, qui arrive à trouver son rythme, mais c'est déjà trop tard. Donc, il va falloir pour Détroit être un peu plus dans les matchs pour espérer que leur quarterback les dépanne quand besoin.
Petite pause et le reste des matchs.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On prend la direction, messieurs, du Colorado pour aller à Denver en altitude, un field goal de 64 yards. Plutôt... Non, pardon, c'était à Seattle, je suis bête.
Bah oui, quand même.
Mais oui, non, mais autant pour moi. C'est parce que sur ma fiche, il était marqué Broncos at Seahawks et j'ai lu le premier nom. Donc, on va à Seattle, pas en altitude, plutôt au bord de la mer, pour donc le retour de Russell Wilson à Seattle. Et donc, je le disais, un field goal de 64 yards plutôt que laisser Russell Wilson tenter la 4e et 5 en fin de match. On en dit quoi? On est outré, je suppose, du côté de Raphaël.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un leitmotiv l'an dernier. On va continuer. Hein. Je vous conseille d'ailleurs sur les réseaux sociaux de regarder la réaction. Vous savez maintenant le célèbre Manning Cast, donc les frères Manning qui commentent les matchs pour une certaine chaîne télé, enfin en plus ou moins parallèle sur Internet en direct. Ouais. Regardez leur réaction sur le choix des Broncos, c'est assez intéressant. Entre les 30 secondes perdues pour appeler un time-out derrière,
en plus.
Le choix du field goal de 64 yards, sachant que leur kicker n'a jamais réussi de field goal de plus de 60 yards. Donc, encore, tu vois, tu aurais Justin Tucker, je t'aurais dit, bah ouais, allez, pourquoi pas Justin Tucker, tu vois. Mais là, bah ouais, on reste avec des coachs qui préfèrent donner le ballon de la victoire à leur kicker de 64 yards plutôt qu'à Russell Wilson que tu as fait venir en grande pompe. Tu as misé ton futur sur Russell Wilson pour pas lui faire jouer une 4 et 5. Je sais pas.
Je crois que c'est surtout le contexte en plus qui est affolant, quoi. C'est que, ouais, on fait tapis sur Russell Wilson et puis premier match, tu dis, on va tenter. C'est pour situer aux auditeurs quand même qui vont peut-être pas aller sur les stats, 64 yards, c'est à 3 yards ou 2 yards du record NFL. Hein. C'est pas le truc qu'on tente et qui a une vraiment. Je sais pas quel est le pourcentage de réussite là-dessus, mais je pense qu'il doit être moins élevé qu'une 4 et 5 avec Russell Wilson.
Il est à 0%, donc tu vois.
Non, mais voilà. Et puis, c'est Russell Wilson, Jerry Jeudy, Courtland Sutton. Enfin, il n'est pas tout seul en plus. Ça a marché sur certaines phases de jeu. Voilà. Là, je pense que même toi, Greg, tu es convaincu qu'il fallait tenter la 4e, rassure-moi.
Ah oui, bah ça, je vais pas vous dire le contraire. C'est sûr que 4e et 5 dans un match où Russell Wilson, pardon, sort quand même une très bonne prestation globale, même si en effet d'un point de vue compteur, on va dire conclusion des actions, c'était pas toujours fabuleux du côté de Denver, mais tout n'est pas de son fait. Mais oui, il y avait au moins, t'as le droit de t'appuyer sur ton kicker en fin de match, mais t'as aussi largement la possibilité de pouvoir au moins tenter la quatrième pour te rapprocher un peu. C'était pas injouable non plus. On sentait que Seattle, même avec une rencontre très appliquée de la défense, commençait un peu à tirer la patte. On a vu des joueurs qui étaient crampés en fin de match. Donc, c'est un gros dommage, et ça intervient en plus pour un coach qui succède à Vic Fangio, qui était lui-même déjà critiqué pour ses décisions de fin de match. Donc, du côté de Denver, on doit s'arracher un petit peu les cheveux à l'heure actuelle du côté des fans.
Justement, Greg, avant l'émission, tu m'as dit, Nathaniel Hackett, tu me le mets sur la liste, je vais me le cartonner. Tu vois,
non, c'est pas ce que j'ai dit du tout.
C'est ton moment.
Ah non, alors il faut savoir qu'Alain aime bien rentrer un petit peu sur des voilà, aime bien polémiquer un peu pour essayer de me bousculer un peu, de rentrer un peu dans des débats. Donc j'ai dit, moi j'ai pris des risques à l'époque. Je me suis engagé sur Zach Taylor et je l'ai payé de ma personne. Donc voilà, vu qu'Alain est extrêmement véhément sur son article. Et a raison, en l'occurrence, hein, sur la gestion de Nathaniel Hackett, je lui ai proposé de le labelliser désormais à avoir de casting. Mais
voilà.
Visiblement, tu ne veux pas. Alors,
c'était dans ce sens-là, je n'avais pas compris, parce que c'était à l'écrit, hein, notre discussion, je précise pour les auditeurs, donc je ne l'avais pas compris dans ce sens-là. Je pensais vraiment que tu voulais en faire ton nouveau Zach Taylor.
Non, Zach Taylor reste Zach Taylor, j'attends encore.
Pas encore, d'accord. Bon, en tout cas, il n'a pas été inspiré, Nathaniel Hackett, parce qu'il y a eu énormément de pénalités pour Denver. Ils ont semblé franchement désorganisés en attaque. Il y a eu ce mauvais choix de fin de match. Donc, c'est un match à oublier pour Denver. On a quand même vu des éclairs de Jerry Jeudy qui marque un touchdown de 67 yards, de Courtland Sutton. Il y a quand même des éléments dans cette équipe de Denver. S'il se met à l'endroit au niveau du coaching, il y a quand même des éléments, Raphaël.
Oui, il y a des éléments en attaque, tu les as cités. La défense qui a très mal commencé, c'est quand même plutôt bien réajusté en seconde mi-temps. Hein. Ils ont un peu plus verrouillé pour le coup. Et on a commencé à voir leur pass rush, notamment totalement absent de la première mi-temps, commencer à gagner progressivement ses oppositions. À l'image de Bradley Chubb. Donc oui, il y a des bases pour faire mieux. C'était le premier match, on va dire, nouveau coach, nouveau quarterback, peu de jeux en pré-saison, donc peut-être le besoin de se roder un peu plus. Donc il y a pareil, là, c'est pas tout n'est pas acheté, mais c'est dommage pour eux parce que dans une conférence hyper compétitive, a priori, c'était un match que tu devais gagner sur le calendrier pour ton temps de passage en play-off, quoi.
Oui, c'est vrai que c'était mieux. Du côté de Seattle, tu le disais, très bonne première mi-temps. Geno Smith en feu pendant la première mi-temps. Ça marque deux touchdowns très vite. Il termine avec une fiche de 23 sur 28, 195 yards de touchdowns. Bon, on va peut-être pas s'enflammer tout de suite non plus sur Denver, rassurez-moi. Parce qu'il commence très très bien, mais il marque pas un point en deuxième mi-temps, hein, je précise.
Sur Seattle, tu veux dire.
Sur Seattle, je vais y arriver aujourd'hui.
Non, mais après, sans parler de s'enflammer, de toute façon, j'en avais parlé un peu lors des previews. Moi, pour moi, je ne considère pas que Seattle terminera à 10 victoires juste en battant Denver sur ce match-là. Mais on a vu qu'encore une fois, ils avaient des arguments, notamment à domicile, pour pouvoir poser des problèmes. Alors, c'est sûr que là, ils sont un peu aidés par les circonstances parce qu'il y a très clairement une mauvaise gestion en face. Après, si Denver fait aussi 0 sur 4 dans la zone rouge, c'est pas uniquement à cause de mauvais choix, c'est encore une fois défensivement ils ont réussi à trouver des ressources et à faire la différence et à marquer les points, en tout cas quand il fallait les marquer. Donc ça va être une saison qui restera assez longue du côté de Seattle, où il va falloir avant tout chercher des repères en attaque et en défense. Mais voilà, déjà ça met en confiance. Ce type de prestation montre qu'ils vont être capables de poser pas mal de problèmes, surtout, je le répète, dans une NFC West qui, au sortir de cette première semaine, m'a pas bluffé. Hein. Ça confirme un peu ce que je pensais en amont.
Seattle est leader de la NFC West.
Juste, si je peux me permettre, c'était quand même une soirée. Je ne sais pas si Pete Carroll, s'il avait voulu troller de manière encore plus parfaite Russell Wilson, il aurait réussi à le faire que sur ce match. Visiblement, Pete Carroll faisait plus trop confiance à Russell Wilson. Là, le nouveau coach de Russell Wilson ne lui fait pas suffisamment confiance. Et on a quand même les deux rookie tackles de Seattle, donc Cross et Lucas, qui ont fait une prestation plutôt pas mal, hein, sauf en fin de match où ils ont un peu de mal contre Bradley Chubb, notamment pour Charles Cross. Mais globalement, c'est un match où ils se sont plutôt bien débrouillés. Je sais pas, je pense que Russell Wilson, quand il a dû voir les deux tackles offensifs rookie qui ont plutôt bien protégé Geno Smith en première mi-temps, il a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait.
Par contre, il n'y a plus de top et de flop, hein, mais j'étais quand même très déçu de la réaction des fans de ces Seahawks, si je peux me permettre.
C'est vrai que
le fait de duer Russell Wilson en amont du match,
c'est vrai que c'était pas hyper élégant. Jets 10, Ravens 24. Les Ravens étaient une des équipes les plus énigmatiques de l'intersaison. Est-ce qu'on a un début de réponse? Lamar Jackson a mis quelques minutes à rentrer dans le match. Il y a eu des petites choses intéressantes dans les airs. Est-ce qu'on a un début de réponse sur ces Ravens? Est-ce qu'on y voit plus clair, Greg?
Bah, je sais pas trop. J'attends de voir confirmation parce que là, en l'occurrence, j'ai pas la sensation qu'il y ait eu vraiment match globalement parce qu'en face, on va peut-être y revenir rapidement, mais c'était quand même assez limité, notamment offensivement. Est-ce qu'on a la volonté du côté de Baltimore de dire, OK, Lamar, tu veux refuser ta proposition de contrat et maintenant montre-nous de quoi t'es capable dans les airs? Je ne sais pas, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'au niveau du jeu au sol, ils étaient pas aidés par beaucoup de blessures.
Ouais.
Et là, en l'occurrence, voilà, il y a ces quelques fulgurances en effet de Lamar Jackson. C'est clairement pas son meilleur match NFL, même s'il y a trois touchdowns à la clé à la passe. Mais en tout cas, voilà, c'est un match, on va dire, pour bien démarrer la saison. On sera pas rassuré partout, notamment offensivement du côté de Baltimore. Mais vu les cibles qu'il a et vu les blessures qu'il y a au niveau de la course. C'est déjà une bonne prestation en soi de Jackson et ça fait du bien d'engranger ce genre de succès.
Les Ravens, ils ont tellement de coureurs, ils ont usé tellement de coureurs en 2 ans, je ne sais même plus qui c'est. Tu sais, on joue en fantasy, je regardais la liste des running backs disponibles, il y en avait 5, tu sais, de Baltimore. Tu fais lequel est en bonne santé, lequel est encore vivant, lequel joue, tu ne sais plus. Là, c'était Kenyan Drake, hein, pour ceux qui suivent quand même, celui qui a eu le plus de ballons pour eux. Mais c'est vrai que 21 courses pour 30 passes, ce n'est pas tout à fait l'ADN des Ravens. Donc, on a eu plus de Jackson à la passe. Raphaël, convaincu d'ailleurs, 17 sur 30, 3 touchdowns, 1 interception pour Jackson.
Oui, convaincu dans le sens, je pense que maintenant on sait à peu près le Lamar Jackson qu'on a en fait. Ça sera jamais le quarterback le plus précis, le plus régulier, consistant à la passe. Ça sera jamais un Tom Brady, un Peyton Manning qui enchaîne des passes, des séries de passes comme ça. Mais il a cette explosivité, ce talent qui lui permet d'aller chercher des jeux clés et des passes explosives par moment. La passe pour Bateman en est l'illustration. Et ça suffit à faire gagner beaucoup de matchs. Enfin, faut quand même le rappeler, sur ses 50 premiers matchs, Lamar Jackson, c'est 38 victoires. Donc, ça suffit à gagner des matchs. Est-ce que ça sera suffisant pour aller au bout? C'est encore un autre sujet. Mais ouais, pour moi, je suis rassuré à ce niveau-là. Il veut aller chercher son contrat en plus et donc il a intérêt à bien le faire. À la limite, c'est presque, comme vous l'avez dit, c'est presque les difficultés au sol qui m'inquiètent un peu plus. Je pense qu'ils ont besoin de plus de jeux au sol que ça.
Tout ce qu'il fait, c'est gagner. Tu viens du coup de me rappeler Tim Tebow et je me dis qu'il faut que je sorte ça pour une des prochaines émissions rétro. tout ce qu'il fait, c'est gagner. Les Jets ont fait lancer le ballon 59 fois à Joe Flacco. Est-ce bien raisonnable? Je vous le demande.
Bah, manifestement, non. Alors déjà, c'est pas raisonnable. Alors, en plus, j'étais assez optimiste par rapport à Mike LaFleur qui avait montré l'année dernière qu'il avait su s'adapter un petit peu. Manifestement, il a de nouveau besoin d'une certaine adaptation pour le début de cette saison 2022. Surtout que c'est d'autant plus étonnant qu'on a vu que le jeu au sol était quand même capable d'apporter suffisamment. Michael Carter, c'est 6 yards par portée quand même, donc il y avait peut-être moyen d'en tirer un petit peu plus que ce qui a été fait plutôt que de s'acharner sur Joe Flacco qui, de toute façon, n'est pas l'avenir de cette franchise. Donc voilà, avoir peut-être un jeu un peu plus équilibré et un jeu au sol un peu plus challengeant, on dira, pour cette défense des Ravens qui globalement a rendu une bonne copie, ça n'aurait pas été une mauvaise chose. Mais en effet, je suis extrêmement curieux de la part de New York.
Bon, pas grand chose à tirer de ce match, Raphaël. Robert Saleh a dit qu'il notait les noms, hein, si t'étais méchant, mais
ouais, bah il peut les noter, il va en avoir beaucoup, à mon avis, à noter.
Oui. Bon. Eh ben, on va passer à la suite. Écoute, Browns 26, Panthers 24. Je donne dans l'autre rang. Panthers 24, Browns 26, puisque c'était à Carolina. Dans une journée où tous les kickers de la ligue ont raté à peu près tout ce qu'il y avait d'important, Cade York, kicker rookie des Browns, a planté le field goal de la gagne à 58 yards à la dernière seconde, messieurs, dames. C'était histoire de prouver encore une fois qu'à part Justin Tucker, il n'y a aucun kicker qui est fiable ou pas. C'est-à-dire que des fois, il y en a un cachot pendant un an, après c'est un autre, après c'est un autre. Des fois, les mecs expérimentés ratent, des fois, les rookies claquent des 58 yards pour la victoire. Évidemment, il fallait que ce soit pour les Browns. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est le match où on a appris le moins de trucs. Baker Mayfield est moyen, Jacoby Brissett est encore plus moyen. Les Browns vont vivre par leur jeu au sol. Voilà.
Après, ouais, je sais pas si c'est le match où on a appris le moins de trucs, mais par contre, c'était un peu ce qu'on pouvait espérer. Alors, je sais pas si le mot espérer pour les Browns est le bon, mais c'était ce qu'on imaginait comme étant le meilleur scénario possible pour Cleveland, en fait, toute la saison sans Deshaun Watson. C'est-à-dire une victoire par le sol, une défense sérieuse et appliquée, en fait, et un effectif. Et c'est pour ça que je reviens sur notre power ranking où on les avait classés assez bas parce qu'il y avait le problème du quarterback. Mais l'effectif est assez cohérent quand même, malgré tout, du côté de Cleveland. Tu as une ligne offensive, tu as un jeu au sol, tu as une défense. Enfin, c'est un effectif qui vaut bien plus que ce qu'on pouvait penser d'eux par manque de quarterback. Donc, à partir du moment où Brissett ne fait pas d'erreur, ne perd pas de ballon, bah, toutes les équipes moyennes peuvent tomber face à Cleveland.
Grégory, est-ce que tu es d'accord ?
Oui, oui, bah, c'est sûr que globalement... Il y a des armes dans cette équipe de Cleveland, c'est sûr malgré tout, et de toute façon, on ne découvre pas. Hein. Je fais écho un petit peu à ce que vous disiez avec Lucas dans l'émission d'hier, mais bon, Jacoby Brissett, on commence à savoir maintenant que ça n'a pas forcément l'étoffe d'un titulaire depuis plusieurs années. C'était un match assez vilain quand même, globalement, malgré le nombre de points au tableau d'affichage. Il y a peut-être une bonne nouvelle, notamment en attaque pour Cleveland, c'est qu'ils ont retrouvé leur ADN du jeu au sol. Ils l'ont conservé en tout cas, hein, parce que ces dernières années... Entre la régularité de Nick Chubb et les fulgurances de Kareem Hunt, ça fait beaucoup, beaucoup de bien et ça fait la différence clairement dans ce match du côté des Browns. C'est le principal truc qu'il faut retenir. Voilà. Et puis, c'est bien d'engranger des victoires en attendant que Deshaun Watson revienne, parce que de toute façon, je pense que dans leur esprit, leur vraie saison commencera à ce moment-là.
Baker Mayfield, donc c'est pas encore tout à fait ça. Matt Rhule, c'est pas encore tout à fait ça non plus. Hein. L'attaque explosive de Matt Rhule qu'on attend toujours. Hein, ça fait 3 ans visiblement qu'on l'attend. Même Christian McCaffrey n'y arrive plus. Hein, 33 yards en 10 courses.
Bon, là, bah, déjà, il met des TD. Hein. Déjà, il marque des touchdowns, mais c'est vrai
déjà,
que.
Il met des touchdowns.
Et pour le coup, et si Baker Mayfield il sort ce genre de prestation en disant je vais tous les défoncer, alors qu'il joue son ancienne équipe, qu'il l'a pris comme un, qu'il a traité comme un train de savate pendant l'intersaison, ouais, ça m'inquiète un peu.
Ouais. C'est certain qu'il avait parlé trop tôt.
C'est sûr. Texans 20, Colts 20. Le premier match nul de la saison est là dès la première semaine. Alors oui, je m'efforce de rester calme. Là, j'ai parlé de kicker. Je suis pas monté trop haut. Là, on va parler de match nul. Je me les suis vraiment groupé. Donc merci aux Texans qui menaient 20-3 et qui allaient me donner un joli point sur les pronos avant de s'écrouler. Merci à Rodrigo Blankenship qui a manqué le field goal de la gagne à 42 yards en prolongation. Merci à Lovie Smith qui punt sur 4e et 3 en terrain adverse à 20 secondes de la fin. Pour aller chercher le nul, hein, parce que bah, y a des gens qui jouent le nul.
C'est là où on voit le panache de Lovie, quand même.
Voilà, le panache de Lovie Smith, qui est quand même délirant. Donc voilà, ça m'a foutu la haine pendant 15 minutes de suite. En plus, c'était moi qui étais sur le résumé, donc inutile de dire que là, je me suis mangé les erreurs de kicker plus le match nul. C'est vraiment tout ce que j'aime hein, dans le football américain. Ceci étant dit, à froid, je me suis dit, ce match, il est presque un peu rassurant pour les Colts, au sens où je peux leur accorder... Alors, j'allais dire, ils ont eu une panne au départ.
La tête de Raph.
D'accord. Mais wow, okay.
J'allais dire, ils ont eu une panne au départ. Ça arrive, c'est le début de la saison, t'es pas chaud, etc. Mais derrière, une fois que t'arrives au bout, tu te dis qu'ils ont repris le momentum sur la fin de match où ils ont dominé logiquement une équipe qui devait battre, que leur kicker se foire. Ils sont à 177 yards au sol, leur défense s'est réveillée en fin de match. Matt Ryan a fini par trouver du rythme avec Michael Pittman. Je me dis qu'au final, sur la fin de match, en tout cas, bon, là, ils seront là pour la FC Sud. Mais Raphaël, tu n'es pas d'accord.
Non, je vois absolument rien de rassurant. C'est une équipe qui, l'an dernier, rate la qualification en play-off à domicile contre les Jaguars d'Urban Meyer, enfin de feu Urban Meyer, qui avait deux victoires peut-être jusque-là. Ils enchaînent la saison avec les Texans, qui a un effectif bien moins complet qu'eux, bien moins talentueux. Et ils n'arrivent pas à gagner, malgré 5 passages en red zone. On a toujours ce... Ils font un 2 sur 5 en red zone. C'est un problème constant depuis 2-3 ans sous Frank Reich, cette incapacité à conclure dans la red zone. C'est toujours le cas.
Et puis, si je peux me permettre, s'ils comptaient sur Matt Ryan pour améliorer le pourcentage en zone rouge, j'adore Matt Ryan, mais c'était clairement pas son domaine de prédiction à Atlanta.
Non, mais franchement, moi, je trouve ça absolument pas rassurant. Ils ont que leur victoire en première semaine face aux Texans. Il soit espéré un field goal à la fin d'une prolongation. Non, moi je trouve ça catastrophique et je pense que bah du coup en fait on sait à quoi vont ressembler les Colts. Ça va être ce genre d'équipe un peu moyenne qui va aller prendre des matchs par-ci par-là et puis c'est tout en fait.
Une équipe d'AFC Sud en somme.
C'est ça.
Bah oui. Ouais, mais du coup, enfin, ok, mais j'avais, oui, si c'est le but de ça.
Sera pour moi, ce seront les meilleurs des moyens, donc ce seront champions AFC Sud.
Ça va être franchement, le vainqueur d'AFC Sud en début de saison, j'en vois pas beaucoup qui lui mettaient à plus de 9 victoires. Hein.
C'est vrai, non, mais c'est vrai.
Donc ça peut rester là-dedans. Du coup, ça fera 8-8-1 à la place.
Non, mais tu vois, moi, comme j'essaie d'être un mec positif cette année, je me suis concentré uniquement sur le 4e carton des Colts. Tu vois, ils mettent 17 points.
Non, mais après, c'est vrai que là où je rejoins Raph, c'est vrai que très clairement, un des problèmes d'Indianapolis, quel qu'ait été leur quarterback ces dernières années, ça a souvent été leur constance sous Frank Reich. On peut dire ça de beaucoup d'équipes, hein, parce que c'est ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, mais il y a eu énormément d'équipes qui ont joué en deux temps en quantité de première semaine. Indianapolis en fait partie. Ils ont été mangés tout cru pendant une bonne partie du début de rencontre, avec beaucoup de déchets de la part notamment de Matt Ryan. Je disais que la zone rouge, c'était pas son domaine de prédilection. J'ai pas dans l'idée que les fumbles, ce soit une spécialité locale. Donc ça, c'est déjà un peu plus perturbant. Et en plus, dans un match où Jonathan Taylor tourne quand même, est quand même assez satisfaisant. Donc oui, ils se contenteront de se dire qu'ils n'ont pas perdu et qu'éventuellement ils pourront toujours, vu les prestations des adversaires directs de division, pouvoir prétendre à cette victoire. Mais de toute façon, on ne s'attendait pas à ce que les Colts gagnent le Super Bowl. Ils ne nous rassurent pas dans cette optique-là à la fin de ce match.
Moi, j'étais déçu parce que je pensais vraiment tenir mon point grâce à Davis Mills, tu vois, continuer à faire monter la hype, gros début de match, O.J. Howard en mode vengeance et tout ça. Mais bon, visiblement, Raphaël n'est pas plus rassuré par les Colts non plus, donc on va pas. Par les Texans non plus.
Non, mais pareil, je sais qu'il y a un optimisme chez certains dans la rédaction alors, autour des Texans. Enfin, encore une fois, c'est pareil, il y a un voyage en red zone, 20 first down en 5 cartons. Enfin,
oui, mais alors, tu vois.
Il faut être enthousiaste par ça, bah. Dans ce cas-là, je suis aussi enthousiaste par toi, Tagovailoa, tout à l'heure, tu vois.
C'est, non, mais alors, pareil, tu sais ce qui se passe, c'est que les Browns sont devenus détestables et donc on a besoin de nouveaux losers sympas, tu vois.
Donc, du coup, on va.
Les Texans sont nos Browns maintenant.
Donc, on va chez l'ancienne équipe de Deshaun Watson. C'est un bon calcul, hein, ça.
Bah, ils s'en sont débarrassés, mais... mine de rien.
Non, après, juste pour pas faire trop long, parce que je l'ai déjà fait suffisamment. Mais non, en tout cas, ce qui est rassurant, c'est que moi, à titre personnel, je voyais Houston comme la plus mauvaise équipe de la ligue. Au sortir de ce match, même si Indianapolis n'était pas bon en début de match, c'est un avis que je relativiserais peut-être un petit peu ou que j'attendrais d'observer au cours des prochaines semaines. En effet, tout n'est pas acheté, très clairement.
On passe au match entre les Falcons 26 et les Saints 27. L'expérience Jameis Winston pour les Saints, ils étaient menés de 16 points au début du dernier quart, ils en ont marqué 17. Michael Thomas a marqué les deux derniers touchdowns de son équipe, Winston a été bon dans le dernier quart. On a des avis différents sur ce match parce qu'on en a parlé avant l'émission. Avec Raphaël, on se disait... C'était quand même déjà inattendu de voir Atlanta à ce niveau-là, à un point. Et on se disait, c'est pas plus mal. Pour le coup, moi, je pensais que c'était eux, la pire équipe de la Ligue, c'était pas Houston. Mais Greg n'est pas d'accord. Pour Greg, c'était une infamie encore qui a subi Atlanta.
Ouais. J'aime quand Alain résume bien mon avis. non, moi, le truc, c'est qu'on me dit, oui, c'est une bonne surprise. Oui, c'est une bonne surprise, mais ils nous sortent toujours la même histoire. C'est toujours la même identité d'Atlanta. Tu changes de head coach, tu changes de joueur. Mais même quand tu as des bonnes prestations globales, bah, tu t'effondres dans le quatrième quart. C'est absolument déroutant. Je regardais le match, je me suis dit, honnêtement, que la saison d'Atlanta ne soit pas bonne et qu'il termine à 2-3 victoires, il n'y a pas de souci. Ils vont sans doute réussir, en effet, à récupérer quelques rencontres. J'étais pas totalement inquiet dans cette optique en début de saison, même si je leur donnais pas une fiche hyper flatteuse. Mais là, tu regardes le match, tu te dis, ils dominent pendant une large partie de la rencontre. Ils ont du pass rush, ils ont un jeu au sol.
C'est pour ça que j'allais te dire, il y a des bonnes choses, il y a une belle leçon.
Mais bien
sacs.
Entendu, mais comment tu fais pour t'écrouler encore et encore et encore avec un fumble gaspillé par Mariota alors que tu as juste à aller chercher le first down pour tuer définitivement la rencontre. Après, ça m'embête personnellement parce que voilà, si Michael Thomas prend le dessus sur AJ Terrell, bon, sur deux actions similaires, ça m'embête un peu plus. Mais enfin, je me dis, tu ne peux pas te retrouver encore et encore et encore dans ce genre de scénario, alors que concrètement, il y a des domaines dans lesquels tu t'améliores. Pour moi, je veux bien qu'ils aient peut-être surperformé, que ça a été bien coaché globalement sur l'ensemble de la rencontre, parce qu'ils ont posé des problèmes à une équipe qui sera prétendante au play-off en NFC, mais ce n'est pas possible d'avoir toujours ces mêmes problèmes avec des coachs qui sont différents. À un moment donné, c'est là où je ne comprends pas.
Je viens de réaliser un truc. Depuis 2020, la stat, c'est que les Falcons sont perdus 3 fois en menant de 15 points ou plus. 3 fois pour les Falcons, 2 fois pour tout le reste de la Ligue sur la même période.
Mais oui.
Mais alors, attends, je viens de réaliser un truc. Greg dit les coachs changent, les joueurs changent, etc., etc. Mais je viens de réaliser, Greg supporte une autre équipe. On va dire que ça commence par un P, ça finit par un G.
D'accord.
Est-ce que le point commun, c'est pas
d'accord.
Greg?
Oui, d'accord. Bon, ouais, j'essaye de ne pas m'énerver, donc si on me force à m'énerver, ça va.
Non, mais.
Mais bon. Non, mais Raphaël, oui, c'est bon.
Au-delà de la boutade, tout ça, je comprends l'énervement de Greg sur le côté, presque même d'ailleurs, culture de franchise, là, pour le coup. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à se sortir de ce truc-là. Bon, va falloir travailler. Mais comme tu disais, pour être un petit peu optimiste malgré tout, je trouve qu'on a revu un Grady Jarrett à très bon niveau. Alors que l'an dernier, il était en difficulté. C'est quand même pas anodin et c'est quand même une bonne nouvelle pour la défense. J'ai trouvé qu'Arthur Smith, en termes de play calling offensif, avait quand même joué sur les qualités et défauts, on va dire, de son équipe en appelant beaucoup de play action. Quasiment la moitié des passes appelées sont des play action. Et ça a permis, et c'est quand même quelque chose dans lequel Mariota se débrouille pas trop mal. Donc, il y a du bon. C'est pas incroyable. Et voilà, on dit pas que cet optimisme fait qu'on les voit très bons. Mais ouais, comme toi, là, en fait, je m'attendais quand même à beaucoup plus de difficultés sur ce premier match. Je me dis, bon, ok, tout n'est pas mauvais quand même.
Bah, 4 sacs, ils en ont fait quoi l'an dernier, 17 ou un truc comme ça, donc c'est déjà bien.
Ouais,
rien que ça, c'est déjà une bonne nouvelle.
Mais alors je suis désolé, je vais me faire des copains, mais ça va peut-être faire une passerelle avec ce que tu allais dire, Alain.
Allez, vas-y, on enchaîne
ils
après.
Ils perdent contre des Saints qui sont pas bons.
Alors voilà, moi j'allais dire que les Saints, pour le coup, moi je trouve que ça va être une équipe fun, ça va aller dans tous les sens, et tout ce qu'on veut, hein, mais avec Jameis Winston, on sait comment ça se termine toujours. Et ils seront prétendants au playoff parce que la NFC est plus faible cette année, mais c'est pas une super équipe. Hein.
Tu vois, ce qui est perturbant, c'est que tu me dis que Houston t'a énervé en se faisant rattraper par Indianapolis dans un match qu'il maîtrisait globalement. Et tu me dis oui, mais Atlanta, c'est encourageant parce qu'ils perdent d'un point. Mais au moins si on avait fait nul, je pourrais me dire bon. Il y a des regrets, mais on a fait nul.
Ah non, vaut mieux perdre que faire nul.
Oh non. Ah non, bah, ça dépend de quel point de vue on se place. Au moins, tu te dis que tu rentres pas complètement fanny d'un match où globalement, tu as dominé les trois quarts du de la rencontre. Mais bon, bref.
Raphaël, un mot sur les Saints et on enchaîne. Est-ce que tu les vois solides?
Je sais pas si c'est solide, mais ils ont suffisamment de talent des deux côtés du ballon pour aller chercher certains matchs. Donc, solide, non. Maintenant, c'est une équipe, tu vois, j'aimerais pas les prendre en wild card sur un coup de chaud.
Les Commanders 28, Jaguars 22. On parlait d'expérience Jameis Winston, l'expérience Carson Wentz aussi. Hein, 2 touchdowns au début, 2 touchdowns à la fin, que dalle au milieu. Mais alors vraiment que dalle. C'est-à-dire que sa fiche, c'est 2 touchdowns, punt, fumble, punt, punt, interception, interception, touchdown, touchdown. Il fait vraiment 2 touchdowns, rien, 2 touchdowns. C'est délirant. Le temps qu'il se fasse remonter, hein, évidemment. Et puis il se réveille un peu à la fin. Alors c'est super beau, hein, McLaurin, Jahad Dodson, c'est super. Mais pour moi, là, Commanders 2022, c'est Colts 2021. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Vance les tuera. De toute façon, c'est écrit, quoi.
Sans doute. Après, ils voient à peu près ce qui se passe du côté de Dallas. Ça va peut-être leur donner des petits espoirs, hein, du côté de Washington. Après, oui, c'est sûr que on sait qu'on va avoir un petit peu à boire et à manger avec Carson Wentz. Là, c'est sûr que face à une équipe de Jacksonville qui était quand même malgré tout assez prenable, Washington s'est mis un petit peu dans le doute tout seul, enfin à mon sens en tout cas, et c'est vrai que faudra voir éventuellement si le jeu va peut-être aussi se rééquilibrer un petit peu avec le retour de Brian Robinson. Je suis pas sûr que ça va se faire tout de suite, mais s'il va pas y avoir peut-être une alternance un peu plus marquée parce qu'on s'est beaucoup beaucoup appuyé justement sur Carson Wentz avec peut-être cette peur encore une fois du fumble permanent d'Antonio Gibson. Mais voilà, en attendant, ça passe de peu, mais ça permet en tout cas, comme tu le disais, de voir un petit peu ce fameux échantillon de cible pour Washington, avec notamment les deux TD de Jahad Dodson qui sont de bonne augure. Donc offensivement, en tout cas, ça peut avoir une autre gueule du côté de Washington, même si voilà, il y aura toujours les impondérables au niveau du poste de QB.
Ouais. Il y a des super playmakers. Hein,
ça, ouais, c'est quand même juste très rapidement, c'est un peu la bonne nouvelle malgré tout de ce match pour Washington, c'est que l'an dernier, Terry McLaurin était tout seul en cible. Là, tu sens qu'il y a un groupe un peu plus étoffé. Et le pass rush est revenu en forme. Pareil, on avait eu un pass rush un peu décevant peut-être l'an dernier du côté de Washington. Après, voilà, comme tu dis, Vance les tuera probablement, mais c'est pas inintéressant.
Soyons positifs sur cette journée. Par contre, les Jaguars, ça a été un peu plus dur. J'ai voulu y croire, c'est pareil. J'ai regardé ce match, j'étais sur celui-là aussi. Il y a toujours beaucoup de pression sur Trevor Lawrence. Il prend 2 sacs, 10 quarterback hits. Il y a un peu de jeu au sol. Il y a un très beaucoup d'éclat de Travon Walker en défense avec une interception. Mais c'est vraiment... C'est des petits pointillés. J'ai du mal à... On trace pas des lignes, il n'y a rien de cohérent, je sais pas.
Oh, c'est beau.
Ouais, quelle image géométrique, c'est beau. Non, mais de toute façon, on sait que le chantier est vaste. Donc, pour le premier match de Doug Peterson, même si on sait qu'en face, ça reste une équipe de Washington qui est également en proie au doute, même si c'est un doute un peu moins prononcé que Jacksonville ces derniers mois. Enfin, en tout cas, il y a un peu plus de structure malgré tout. Voilà, là, pour le coup, ils sont revenus dans le match. Je le disais, pas toujours de manière hyper clinquante, mais en tout cas, ils sont revenus dans le match. ça aura peut-être pas même été scandaleux qu'il le gagne hein, à l'arrivée. Donc voilà, on se dit que certes, c'est une défaite qui fait un peu de mal, mais pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la FC Sud, ça reste la FC Sud. Donc il y aura toujours une possibilité avec un groupe qui peut être amené à progresser, à grandir petit à petit, d'avoir une chance globalement dans cette conférence américaine.
Si je dois garder une bonne nouvelle, moi, c'est Christian Kirk qui a 6 réceptions, 77 yards. Je pensais qu'il allait disparaître après son gros contrat.
C'est ce que j'allais dire. Le reste, je vais me le garder pour plus tard dans la saison pour taper dessus, mais Christian Kirk, c'est quand même la bonne nouvelle.
Titans 20, Giants 21. Les Titans ont manqué un field goal de 47 yards à la dernière seconde. Victoire des Giants pour le premier match de l'ère Brian Daboll qui a tenté une conversion à deux points. Saquon Barkley, 164 yards sur 18 courses, 9,1 yards par course, 30 yards sur 6 réceptions. La conversion à deux points réussie par Barkley. Est-ce qu'on s'enflamme pour terminer comme ça? Ouais, ça y est, les Giants, Daniel Jones et tout ça et tout ça. Ou alors on a encore toujours cette anecdote. Hein. Il y a 2 ans, les Jaguars gagnent leur premier match et perdent les 15 suivants. Enfin, gagnent leur premier match ouais, avec Gardner Minshew. Je ne sais pas si c'est les Giants ou les Falcons. Tu vois, non, les Falcons ont perdu. Bref. Ou les Bears. J'en pense rien de ce match des Giants parce qu'on sait toujours comment ça finit.
Bah, ça fait partie de ces matchs hyper déroutants du week-end quand même. C'est un match que les Giants gagnent et où tu te dis, alors, Saquon Barkley, c'est très bien qu'il revienne. On espère qu'il restera en forme parce qu'en forme, il a démontré qu'il était capable de faire des bonnes prestations. Le problème, c'est que c'est plus trop ce qu'on voit depuis 2 ans maintenant. Mais c'est un match qui est hyper particulier pour les Giants parce qu'il y a énormément de fulgurances. Il y a ce field goal manqué en fin de rencontre, alors qu'a priori, là, on n'était pas à plus de 60 yards. Donc, normalement, il y avait quand même largement possibilité pour Tennessee de s'imposer. Mais c'est vrai que quand on regarde les fiches de stats brutes, la prestation elle-même de Daniel Jones, elle est quand même hyper déroutante parce qu'il n'y a pas beaucoup de passes incomplètes, mais il y a encore et toujours ces turnovers. Donc, c'est une victoire qui est bonne à prendre. En plus, avec le call hyper audacieux de Brian Daboll, qui, je le sais, a dû faire plaisir à Raph. Donc, c'est très, très bien de commencer de cette manière-là du côté de New York. Voilà. Après, je ne suis pas totalement rassuré à 100% vu le scénario global de la partie.
Raphaël,
vous vous en doutez, c'est bien entendu mon top de la semaine, le call de Brian Daboll. Hein, voilà. Non, mais au-delà même, sans rire, au-delà du point de vue purement comptable, hein, on va dire, de cette victoire et de cette conversion à deux points, parce que comme toi, Alain, je pense qu'elle est un peu anecdotique dans le sens où, à mon avis, New York finira 5-6 victoires et celle-là ne va pas être la première d'une longue série de 10 victoires. Donc, peu importe comptablement. Mais pour moi, là où c'est important, c'est que je trouve que Brian Daboll, en faisant ce geste-là, il arrive à New York où depuis 5-6 ans, c'est quand même la culture de la lose globalement. C'était quoi les grands moments de fierté à New York sur ces 5-6 dernières années, tu vois, chez les Giants? Pas grand-chose quand même, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je trouve que faire ce choix-là, et en plus le réussir, donc c'est un peu de réussite, mais faire ce choix-là, c'est, à mon sens, c'est positif parce que ça montre que c'est un coach qui veut installer une nouvelle culture, une sorte de culture de la gagne, il y va. Ça ne va peut-être pas réussir toute cette saison, mais à certains égards, ça me rappelle un peu quand Brandon Staley, l'an dernier, essayait plein de 4e tentatives et que lui, il expliquait ça par la volonté d'installer une culture agressive, une culture de la gagne. Et je trouve ça important pour une équipe comme New York qui était ridicule depuis plusieurs saisons. Il ne va pas tout réussir et la saison ne va pas être remplie de victoires, mais au moins, si franchement Brian Daboll arrive à apporter une nouvelle identité à la franchise, je pense que le choix est le bon et que l'avenir est déjà plus intéressant, tu vois.
J'étais en train de regarder, c'est la première fois depuis que Daniel Jones est là qu'il gagne le premier match de la saison. C'est la première fois depuis 2016 qu'il gagne leur premier match de la saison. Après, moi, je voudrais quand même revenir sur l'autre. Pour moi, la vraie leçon, elle est plus du côté des Titans, au sens où j'étais inquiet pour cette équipe pendant l'intersaison et ce match, il confirme un peu ça. C'est-à-dire qu'en dehors du pass rush, il n'y a pas grand-chose qui a été impressionnant. Daniel Jones est sous pression sur 69,2% de ses tentatives de passe. Donc le pass rush marche même sans Harold Landry sur ce match. Mais pour le reste, franchement, c'est pas folichon. Alors, Derrick Henry, il va falloir reprendre du rythme. Ryan Tannehill, il faut trouver de la connexion avec les receveurs, etc. Mais je sais pas. C'est une équipe pour laquelle, moi, en l'occurrence, je suis vraiment très, très moyen sur cette saison. Et je sais pas. Peut-être que je m'en fais pour rien et qu'ils vont retrouver du rythme offensivement, Grégory. Je sais pas ce que tu en penses.
Non, mais c'est le souci là aussi qu'on avait l'année dernière avec ces Titans, c'est que c'est une équipe qui est capable de perdre des matchs largement prenables. On se rappelle encore une fois qu'ils avaient perdu l'an dernier à domicile contre une formation de Houston qui était déjà larguée au classement. Et c'est une équipe qui est capable d'aller taper un gros dans 1 ou 2 semaines. Enfin, en tout cas, qui a encore ce potentiel-là, parce que c'est encore compliqué de tirer des conclusions dès la première semaine. Je le disais tout à l'heure, malgré ce scénario où en effet ils étaient assez confortables au niveau du tableau d'affichage, ils ont laissé les Giants reprendre confiance et reprendre du momentum petit à petit. Ils avaient quand même la capacité de gagner cette rencontre. Donc là encore, ça fait partie de ces équipes qui demandent à avoir confirmation. Tout n'est pas rassurant et en effet, je te rejoins, j'étais moi-même aussi un petit peu inquiet là-dessus. Mais bon, syndrome AFC Sud, donc je vais pas répéter ce que j'ai dit pour les autres.
Eh bien, c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 504 du podcast Jean Actu. Messieurs, le premier débrief de la saison 2022. On remercie tous nos auditeurs et on remercie aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Attention, longue liste de rentrée. Ah oui, c'est la rentrée. Donc là, il y a de la liste. Hein. J'ai tout depuis le mois de mai. C'est parti. Alexandre, Lo Constantin, Jeff Veder, Lucas, Chris 14, Tech, Euskalator, Julien Brossillon, Yumi Fluffy, Reg Boris, Pat CH, Ririk Le Géant, Pim, James, Mathieu Toronto, Lille Molicou, Valengo, Cocardinho, Cyril VDW, Alicia, Grumpy, Pixix, Frédéric, Victor, Lemonette 33, Champio, Mathieu, Steph Toucourt, Damien, KNTN, Tefou 44, Auré, Pogreen Cake, Sébastien, Guiche 23, Thomas, Olin Pinecrest, Lucas, Alexis et Juju.
Ouf, pas mal.
Voilà, j'ai fait tout. Si l'émission dure plus longtemps, si au moment de la télécharger, vous avez dit tiens, elle dure longtemps, c'est parce qu'il y avait les remerciements Tipeee à la fin. Merci encore une fois à vous d'être là. On espère que ces nouveaux formats vous plaisent. Vous l'avez vu, donc la dernière partie du débrief le mercredi matin, comme d'habitude en fait. Et puis comme ça, bah, vous avez eu de l'avance sur les quatre premiers matchs. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. On se retrouve dès demain avec Victor Roulier pour la preview de la semaine 2. Le vendredi, maintenant, je vous refais le programme, mais vous allez avoir l'habitude. Le vendredi matin, ce sera la draft. Et puis le samedi matin, l'émission rétro, je le disais, ce sera le tout premier épisode du podcast Jean Actu qui sera mis en ligne ce samedi. Donc là, il y a vraiment du collector. Je vous l'ai dit, on parle du contrat à 100 millions de dollars de Michael Vick à ce moment-là aussi. Et je sais plus, mais il y a vraiment des noms old school hein, qui sont balancés là-dedans. Donc là, faut vous faire plaisir. Il faut vous dire qu'on est quand même à un moment où Andrew Luck n'a même pas encore été drafté, du coup, parce que j'ai mis la draft d'Andrew Luck l'autre jour, mais là, on revient encore plus en arrière. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Greg.
Merci.
Un plaisir.
Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief. Je vous l'ai dit entre-temps, preview de la semaine, draft, rétro et le fauteuil, évidemment, fauteuil rallongé, 17h30. Vous allez avoir l'habitude aussi. Maintenant, les réseaux sociaux, @TDActu sur Twitter et Facebook, @JeanActu en entier sur Instagram, @TDActu pour le site internet. Vous avez l'habitude. Merci beaucoup à tous. À ciao, ciao.
Jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit.